RCF. RCF, le béaba du christianisme.
À l'occasion du mois de la création, on s'intéresse cette semaine dans le béaba du christianisme à l'un des saints les plus populaires au monde, saint François d'Assise, ce fils de riche marchand devenu le poverello, celui qui murmure à l'oreille des animaux, va consacrer sa vie à aimer toutes les créatures, la création, à vivre dans le dénuement, la pauvreté, une règle de vie qui va façonner l'ordre qu'il va fonder. Mais comment est né plus précisément l'ordre des frères mineurs? Quelle est la règle qui structure cet ordre? Qu'est-ce qui caractérise la spiritualité franciscaine? On en parle cette semaine avec frère Éric Moidon, franciscain.
Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac.
Frère Éric Moidon, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes franciscain, vous êtes le gardien de l'ermitage de la Cordelle à Vézelay, c'est le berceau des franciscains en France. Saint François d'Assise est un jeune homme issu d'une riche famille marchande, on l'a dit. Il mène une jeunesse dans l'insouciance, une jeunesse dissipée, il veut devenir chevalier, se retrouve en prison à la suite d'une guerre entre sa ville, Assise, et la ville voisine de Pérouse. Et puis à la suite de sa détention, il va tomber gravement malade et c'est là que se joue sa conversion. Il crée ensuite, en 1209, une confrérie primitive fondée sur la pauvreté totale et la prédication. Comment, frère Éric Moidon, va-t-il dessiner peu à peu les contours de l'ordre des frères mineurs?
Ce qu'il faut peut-être se rendre compte d'abord, c'est que son mouvement n'est pas unique. À l'époque, il y a des mouvements de pauvreté partout, en Italie notamment, et donc des hommes et des femmes laïcs qui essaient de revenir à la pauvreté évangélique, à une vie simple en fait, donc une espèce de réforme à l'époque. Donc François, c'est un des mouvements de pauvreté qui va perdurer parce qu'il a eu soin de se mettre sous l'obéissance de l'évêque d'Assise puis du pape et puis de se faire vérifier aussi dans sa foi. Et puis il a toujours été capable finalement de rester dans l'Église en revendiquant la liberté de vivre ce que l'Esprit lui demandait de vivre, tout en étant, dit-il, soumis aux prêtres, à la hiérarchie ecclésiale. C'est un peu cette ligne de crête qui n'est pas évidente, mais qu'il a réussi à tenir. Il a vécu sa conversion, et ça a été une telle illumination, quelque part, parce qu'il a donné à voir la joie évangélique, la paix évangélique, et ça a contaminé du monde, c'était le corona positif de l'époque. Et donc il a ses amis qui ont commencé par rire de lui, ont commencé à le rejoindre, et puis en 10 ans, il y avait 5000 frères, je crois.
Donc en fait, il est victime de son succès.
Victime de son succès, on pourrait dire, d'autant plus ça va être le drame de sa vie, puisque il va avoir constamment l'impression que les frères arrivant nombreux, intellectuels, prêtres et autres, et puis l'Église qui cherchait peut-être, ou même sans doute, à récupérer cet ordre pour sa propre mission, il a toujours eu l'impression que les frères n'allaient pas être fidèles à l'intuition qu'il a reçue. Et donc, à un moment d'ailleurs, il va démissionner et puis se mettre à vivre pleinement ce qu'il a à vivre pour dire, moi au moins, je mène mon chemin.
Alors justement, quel est ce chemin? Rappelez-nous peut-être cette ligne directrice donnée par François d'Assise, basée à la fois sur la pauvreté, la prédication. Comment réussit-il à embarquer, à convaincre d'autres compagnons de le suivre?
La première chose, je crois que c'est d'abord la découverte de l'amour de Dieu pour lui. On sait qu'il avait des problèmes avec son père, qui avait sans doute des plans préétablis sur lui. Et il a fait l'expérience, une double expérience, l'expérience de la rencontre du lépreux, dont il parle dans son testament, qui est significative de la rencontre du pauvre et du marginal absolu de la société, ce qu'il avait sans doute peur de vivre, et ce à quoi son milieu le protégeait, quelque part. Et puis, il s'est rendu compte que cette rencontre n'a pas été un dégoût, comme il a vécu jusque-là, mais une joie, dit-il, pour l'âme et pour le corps. Donc, une espèce de réconciliation avec son humanité entière, corps et âme, et de trouver là une liberté, une joie de pouvoir être frère de l'autre, quelle que soit sa condition, même la plus méprisable ou la plus inquiétante, et puis lui-même étant quelque part réconcilié à lui-même. La deuxième rencontre, c'est celle du Christ dans l'église de Saint-Damien, notamment, enfin, dans d'autres lieux, où là, il découvre, il prend conscience que quand Dieu s'est fait homme, il s'est fait pauvre et humble parmi nous, pour rejoindre les pauvres, mais plus profondément pour nous montrer qui est Dieu, quoi. Alors, c'est plus dans les années récentes, Maurice Zindel et autres qui ont bien développé ça. Mais la pauvreté de François, elle est radicale matériellement. Même s'il dit haut dans la règle, les frères auront ce dont ils ont besoin pour travailler. C'est plutôt le fait de la désappropriation. Parce que François, il avait vraiment conscience que ce qui abîmait les relations fraternelles, c'était le fait d'avoir des choses et de devoir les défendre. Et dans un ordre qui a réconcilié des aristocrates, des bourgeois, des pauvres, des clercs et autres, où tout le monde se retrouvait sur le même plan d'égalité, on pourrait dire, fraternelle, mais parce que François a fait l'expérience, je ne sais pas à coup et à quel moment, de cette providence de Dieu qui veillait sur lui, et donc la fraternité qui naissait avec les frères qui étaient les siens. Donc c'est un homme qui était habité d'un feu de l'amour de Dieu. Donc il avait perçu cet amour de Dieu, il voulait à la fois le creuser dans l'expérience d'ermitage et en être témoin sur les routes. Et c'est cette ferveur-là, cette confiance en Dieu, Père, Créateur, et en Jésus qui nous révèle qui il est et qui nous sauve, qui touchait les gens parce que il vivait pauvrement, donc c'était pas des choses qui lui rapportaient des bénéfices, quelque part. Il y avait une gratuité de l'amour qui était mise en image.
RCF, le béaba du christianisme.
François d'Assise reste l'une des figures spirituelles les plus connues au monde. On l'a vu, son désir de pureté évangélique est contagieuse. Les compagnons qui se mettent à sa suite sont de plus en plus nombreux. Frère Éric Moidon, à quel moment, finalement, l'ordre des frères mineurs se structure ? On le sait, François d'Assise a la volonté de faire reconnaître son ordre par l'Église.
Alors François, dès qu'il a eu 10 ou 12 frères, ils sont allés à Rome, avec la naïveté spirituelle qui était la sienne. Alors il y a des récits très très drôles où le pape l'envoie en disant « t'es habillé comme un cochon, va te feutrer avec les cochons et puis tu reviendras me voir », ce qu'il a fait. Mais ils arrivent à Rome comme des vagabonds, quoi. Et il va quand même voir le pape, et puis il y a une vision dans la basilique d'Assise où on voit le pape qui refuse d'abord François, et puis qui a une vision la nuit d'un petit homme qui soutient l'Église.
Saint François doit donner une constitution à son ordre. Il en rédige une première qui est refusée par Rome, c'est ça ? Et ensuite, c'est Rome qui... revoit un peu la copie.
Il va à Fontecolombo avec un frère ou l'autre et des aides, il rédige la deuxième règle, ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette règle ?
Toute la vie quotidienne des frères, c'est-à-dire ceux qui veulent rentrer, voilà la démarche, postulat, noviciat, qu'est-ce que vivent les frères comme travail, l'esprit du travail.
Les grands principes.
Les grands principes. Le rapport d'autorité qui, chez nous, François dit souvent, le provincial ou le responsable doit être le serviteur des autres, quoi. Donc, on n'est plus dans la hiérarchie bénédictine, je veux dire, même si je pense que la dynamique spirituelle est la même, mais le positionnement n'est pas du tout le même, quoi. Et donc, de toujours à la fois sur cette recherche d'obéissance personnelle, mais de non-pouvoir institutionnel.
Donc si on devait résumer justement les principes de la règle qui structure l'ordre des frères mineurs.
Mais moi je pense que c'est une règle qui invite à la non-appropriation, à la désappropriation, parce que l'appropriation c'est ce qui nous renferme sur nous, alors qu'on est des êtres de relation, et que l'évangile est là pour nous ouvrir à la relation à Dieu, à nous-mêmes et aux autres. Et la règle, de façon encore plus centrée, parce que c'est vrai que François, il nous dit, on suit le Christ pauvre, humble et crucifié. Donc on est des frères mineurs, on essaie de se considérer comme plus petits que les autres, pour justement permettre à chacun de trouver sa propre place.
La pauvreté, elle est dans le titre aussi, les frères mineurs, c'est pas pour rien que
mineurs, c'est plus petit
Saint François a choisi ce nom pour désigner l'ordre.
C'était une classe sociale de l'époque. Il y avait les majoresses, les nobles, les gens qui avaient de l'argent. Et puis les minoresses, c'était les travailleurs, les petites gens. Et François et les premiers frères ont vécu d'abord parmi eux. Ce qui fait d'ailleurs beaucoup de nos couvents à une époque se construisaient dans les banlieues des villes.
Qu'est-ce qui fonde la spiritualité franciscaine ?
L'incarnation du Christ. L'incarnation du Christ. François, c'est la contemplation de la crèche et de la croix, essentiellement. Donc il dit l'humilité du Fils de Dieu qui est venu pauvrement dans une crèche. Et puis l'amour de la passion, enfin l'amour qui manifeste dans la passion et la pauvreté radicale de cet homme qui dit au Père, je n'ai plus rien. Et c'est au moment où il n'a plus rien qu'il est tout, qu'il est Dieu, et François est fortement marqué par ça, et c'est ça, je crois, que c'est sa contemplation, c'est ce qui va devenir d'ailleurs même dans son corps, puisqu'il va recevoir les stigmates 2 ans avant sa mort, ça traduit dans son corps l'expérience mystique qui a été la sienne de tout recevoir de Dieu, et de rendre toute grâce à Dieu.
Frère Éric, on l'a compris, Saint François est toujours très populaire aujourd'hui, il est connu universellement. Quel essor peut-être prend l'ordre des frères mineurs juste après la mort de Saint-François? On sait qu'il va être canonisé assez vite après sa mort. Et voilà, quel est le rayonnement de l'ordre des frères mineurs aujourd'hui aussi?
Après sa mort, ça va se développer énormément, ça va se structurer beaucoup, ça va s'institutionnaliser aussi avec des couvents. Saint-François est un premier de cordée tellement radical au sens d'être allé au bout du chemin chrétien, qu'on n'est jamais satisfait d'être franciscain quelque part. Et donc il y a les communautés très très régulièrement tout au long de l'histoire de l'ordre se sont réformées. Et aujourd'hui, notre province, notre vie franciscaine est quand même en difficulté, je pense. Mais même dans l'Église, je crois que le laïcat est en train de prendre une place très très importante. Il y a moins de vocations sacerdotales et moins de vocations religieuses. On a une tradition de vie fraternelle qui parle, qui peut aider, qui rend heureux des jeunes qui passent chez nous aussi. Il y a une tradition franciscaine autour du rapport à l'argent, à l'économie aussi. C'est vrai que toutes ces questions qui font l'actualité, finalement. On a Saint-François et une tradition franciscaine qu'on redécouvre aussi de plus en plus, qui ont quelque chose à dire aujourd'hui. Et donc, à nous, je crois, d'être suffisamment dans notre vie, dans notre tradition. Et puis, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça n'attire pas d'autres jeunes. On est peu nombreux de notre génération. Peut-être faire une transition pour d'autres qui auront autre chose à inventer. On verra. De toute façon, c'est le Seigneur qui mène sa barque.
Frère Éric Moidon, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes franciscain, le gardien de l'ermitage de la Cordelle à Vézelay. Merci de nous avoir éclairé sur cet ordre des frères mineurs, sur la spiritualité franciscaine. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr.